Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit, les sciences humaines, quelque part, méthodologiquement athées. On n'était pas dans une perspective croyante, forcément, même si nous savons que nous sommes croyants, mais c'était une vision de l'Église vue à hauteur d'homme. Alors qu'aujourd'hui, en parlant du lien entre Église et Eucharistie, on va revenir à une compréhension beaucoup plus théologique de l'Église. Donc c'est une compréhension un petit peu difficile. La phrase que j'ai prise pour titre, « L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église », c'est un aphorisme du père de Lubac qui prend conscience que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie, qui organise, qui, ce que vous voudrez, mais que par l'Eucharistie, l'Église est constituée. L'Église se fabrique, se réalise par l'Eucharistie. Alors, le père de Lubac en prend conscience essentiellement en lisant les pères de l'Église. Parce que cette réalité du lien entre Église et Eucharistie, qui est extrêmement présente au premier millénaire, est un petit peu occultée, voilée, au second millénaire. Et je vous rappelle que je vous ai parlé de la réforme grégorienne au XIe siècle, qui change beaucoup de choses dans l'Église. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un petit peu comment ça a fonctionné, ce changement, et les conséquences, et comment on redécouvre depuis le XXe siècle ce lien entre l'Eucharistie et l'Église, alors qu'au second millénaire, l'Eucharistie était beaucoup, c'était un acte de l'Église, mais que chacun effectuait un petit peu pour lui-même. Alors, c'est pas sans une très très grande tristesse que je vous fais ce cours aujourd'hui. Ce lien entre Eucharistie et Église nous est beaucoup revenu par la théologie orthodoxe, qui n'avait jamais perdu ça dans sa profonde pensée. Et l'orthodoxie a vécu un deuxième millénaire et une deuxième moitié du deuxième millénaire extrêmement troublée sur le plan politique, sur le plan des pays où ils étaient. Mais au XXe siècle, il y a eu toute une élite russe qui a été exilé en Occident, et dans cette élite russe, il y avait beaucoup de très bons théologiens, dont la plupart étaient d'ailleurs laïcs, et qui ont redonné les trésors de l'orthodoxie à leurs camarades théologiens, protestants et catholiques, qui vivaient en Occident. C'était particulièrement vrai en France, mais également aux États-Unis ou en Allemagne. Et
à quelle époque?
Je dirais entre l'arrivée du tsar et les années 50, la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une grosse colonie russe exilée, ce qu'on appelait les Russes blancs. Hein. Et c'était une élite intellectuelle, très souvent, et spirituelle également, c'est moins connu. Alors quand je vous dis que c'est pas sans une profonde tristesse, c'est que on reverra ça quand on fera le cours sur l'œcuménisme, les églises orthodoxes vivaient jusqu'à il y a 3 semaines en communion, en ce sens qu'elles ont un système qu'on appelle d'autocéphalie, c'est-à-dire que chaque église est celle de Moscou, celle de Constantinople, celle de Bulgarie ou celle d'Afrique, ont leur patriarche ou leur évêque majeur, et que toutes ces églises étaient, jusqu'à il y a trois semaines, en communion, c'est-à-dire qu'elles pouvaient partager la même Eucharistie. Or, cette communion a été rompue entre Moscou et Constantinople il y a un petit peu moins d'un mois, sur la question ukrainienne. parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'église d'Ukraine, l'église orthodoxe d'Ukraine, parce qu'on verra qu'il y a aussi une église catholique d'Ukraine, a demandé son autocéphalie, c'est-à-dire à ne plus dépendre de Moscou, que Constantinople a reconnu l'autocéphalie de l'église d'Ukraine, et qu'en rétorsion de quoi, Moscou a rompu la communion avec Constantinople. À Paris, outre plusieurs petites églises orthodoxes, il y a deux cathédrales orthodoxes. Celle qu'avaient créée les Russes blancs dans les années 20, dont le nom m'échappe tout le temps, et celle qui a été inaugurée il y a un an et demi, qu'est Branly. Les orthodoxes des années 20, comme ils avaient fui Moscou pour des raisons politiques évidentes, mais qu'ils vivaient dans la communion de l'orthodoxie, s'étaient mis sous patriarcat de Constantinople, parce que, à l'époque, le patriarcat de Moscou était une marionnette aux mains du pouvoir soviétique. Et donc, ils avaient demandé à dépendre du patriarcat de Constantinople. Du coup, les deux églises orthodoxes parisiennes ne sont plus en communion. C'est-à-dire que les fidèles qui ont communié un dimanche dans l'une ne peuvent plus aller dans l'autre le dimanche suivant.
Il y a eu un moment où il y a eu un patriarcat français.
Peut-être, oui.
Il y a toujours une église orthodoxe de France qui est rattachée...
Qui est rattachée à Constantinople. Qui est rattachée au patriarcat. Oui. Alors, c'est compliqué parce que... Oui. C'est compliqué, je ne sais pas tout, c'est tellement compliqué l'orthodoxie. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que jusque-là, l'orthodoxie vivait dans la communion, et que, alors que c'est eux qui nous ont fait redécouvrir ce poids du lien entre Église et communion eucharistique, c'est avec une profonde tristesse que je constate ce qui est peut-être le début d'un schisme.
Oh là.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. Parce que ce que j'ai également pu vous dire, c'est que entre la première rupture de la communion entre Rome et Constantinople qui se fait en 484 et le point de non-retour que je situerai au début des années 1200, il y a eu plein d'allers et retours où la communion a été rétablie, puis rompue, puis rétablie, puis rompue. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre Rome, entre Constantinople et Moscou? Difficile de le savoir, c'est pas la première fois non plus que c'est rompu et que ça s'est remis en place. Donc, c'est compliqué. Deuxième chose que vous voyez, la plupart des schismes dans l'Église sont en fait politiques. Et ce n'est pas la doctrine qui sépare Moscou et Constantinople sur cette histoire-là. C'est évident. Après ça, ils pourront trouver une virgule de doctrine sur laquelle ils ne sont pas d'accord s'ils veulent prolonger le prisme. C'est pour ça que la question du filioque qui nous sépare et plus la virgule qu'on a ajoutée pour dire qu'on ne pouvait plus être ensemble que la cause de la rupture. Bon, alors, donc, ce lien entre Église et Eucharistie, l'Église occidentale l'avait perdu. Alors, si je dis l'Église occidentale l'avait perdu, le bon sens populaire l'avait jamais perdu. Tout le monde a toujours su que ce qui fait un chrétien, c'est d'aller à la messe le dimanche. La théologie, on n'avait plus parlé, on va voir comment. Dans les années 20, donc, sous l'influence à la fois de la redécouverte de l'écriture, de la redécouverte des pères de l'Église, de l'échange avec les orthodoxes favorisés par la fuite des intellectuels russes, on commence à revoir ça, à revoir l'importance du lien entre Eucharistie et Église. Le père de Lubac, il écrit entre les années 30 et les années 60. Et c'est un peu un de ses leitmotifs. Après ça, le Concile va redire ça, et on va le voir un petit peu, le lien, et ça va être encore plus approfondi après le Concile. Et vous vous rappelez peut-être qu'en 2005, on a eu une année dite de l'Eucharistie, qui a été précédée par une encyclique de Jean-Paul II qui s'appelait Ecclesia de Eucharistia, et dont je vous ai mis les premiers mots sur la feuille. Et il y a eu en 2005 un synode sur l'Eucharistie, et c'est le pape Benoît XVI qui a écrit l'exhortation post-synodale, Sacramentum Caritatis, dont je vous ai également mis un extrait, puisque entre les deux, Jean-Paul II était décédé. D'accord ? Alors, pour faire ce cours, un plan, d'abord on va regarder l'Église corps du Christ et cette évolution de la notion. On va parler un petit peu de liturgie, donc je vais vous dire que c'est de l'ecclésiologie appliquée, c'est-à-dire que l'Église se dit dans sa liturgie. Et puis on va lire une des prières eucharistiques, la troisième, qui est la plus théologique des quatre, pour comprendre un petit peu mieux ce lien entre Eucharistie et Église. Les numéros que vous voyez là, ce sont simplement les numéros des diapositives qui correspondent aux polis que vous trouvez sur Internet quand vous allez fouiller. Alors, on va revenir à la base, au tout début. Ça ne peut pas être plus tôt dans le christianisme, peut-être avant 50, donc moins de 20 ans après la mort du Christ, première aux Corinthiens. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes, excusez-moi, il manque un mot, tous un seul corps, car nous participons à cet unique pain. Donc, c'est le pain, c'est la coupe que nous partageons, qui nous font communier au sang du Christ, communier au corps du Christ. Faisons attention. Communier, ça veut dire participer à, dans le langage de saint Paul. Ça veut dire nous participons au corps du Christ, nous participons au sang du Christ. Et c'est parce qu'il y a un seul pain, c'est parce qu'il y a une seule coupe que nous sommes un seul corps. On est au chapitre 10. Toujours dans la première aux Corinthiens, on va maintenant au chapitre 12. Et là, on a le plus ancien récit de l'institution que nous fait laisser le Nouveau Testament. Voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Cette notion, je l'ai reçue, je le transmets. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Et Paul rajoute, car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, Paul raconte ce qu'il a reçu, ce qu'on lui a transmis. Il raconte un récit. Ce récit, il l'a fait rentrer dans une action rituelle de partage du pain. Et on est là en avant 50, peut-être 49 après Jésus-Christ. On a dès l'origine ce lien entre le corps, nous sommes tous un seul corps, et ce mémorial, on reviendra un peu plus tard sur cette notion de mémorial, du dernier repas du Seigneur. D'accord ? Donc, le lien entre l'Église, n'oublions pas que la lettre aux Corinthiens s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Le lien entre l'Église qui forme un seul corps, qui est le corps du Christ, et le partage de l'Eucharistie, c'est attesté aussi loin qu'est attestée l'Église. Après, dans les actes qui sont plus tardifs, vous auriez, ils étaient assidus à la fraction du pain, etc. Donc, ce lien entre Église et Eucharistie est vieux comme l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On voit que l'Eucharistie, que je vous disais, le peuple chrétien, il s'est toujours rappelé que ce qu'il faisait le chrétien, c'était d'aller à la messe le dimanche. Et donc, l'Eucharistie structure la vie chrétienne depuis deux millénaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une relation d'identité entre la participation au pain eucharistique et l'intégration au corps ecclésial unique. Alors, je sais bien, c'est par le baptême qu'on est intégré au corps ecclésial. Mais cette intégration, si elle n'est pas renouvelée régulièrement par cette participation au pain eucharistique, elle ne sert à rien. Elle est lettre morte. C'est cette structure de la vie chrétienne qui permet la participation à la vie du Christ ressuscité, donc au corps ecclésial. Et là, on est dans ce qu'on appelle le sacrement de la communion, sachant que sacrement, c'est le mot latin qui traduit le mot grec mystère. D'accord ? Donc, mystère, vous vous rappelez qu'en théologie, c'est quelque chose qui est de l'ordre du projet de Dieu que nous n'avons jamais terminé et fini de comprendre. Donc, ce sacrement, mystère de la communion, c'est quelque chose qui, participation à la vie du Christ ressuscité et donc au corps ecclésial unique, c'est vraiment structurant de la vie chrétienne. Les pères de l'Église n'arrêtent pas de le dire et de le redire, et c'est pour ça que vous allez travailler un travail de groupe, un sermon de Saint-Augustin qui va appuyer sur le sujet. La théologie orthodoxe du XXe siècle va beaucoup travailler ceci, et c'est pourquoi le lien entre Eucharistie et Église est tellement important, et que dans le dialogue, au moins avec les Anglicans et avec l'orthodoxie, au moins dans les périodes, je dirais, entre les années 80, où le dialogue était très vivace, était ce lien avec l'Eucharistie était au centre du dialogue, mais également de façon plus large avec les autres protestants. Et alors, je vous ai remis là que l'année 2004-2005, c'est-à-dire en fait à partir du premier dimanche de l'Avent, était l'année de l'Eucharistie, avec l'encyclique qui l'a précédée et l'exhortation apostolique qui l'a conclue. On va maintenant voir cette question du changement de sens de la question de l'Eucharistie, qui est une histoire à la fois triste et à recevoir. C'est notre histoire. Quand on parle, quand les théologiens parlent du corps du Christ, ils ont trois mots. Alors, c'est les théologiens, excusez-moi, plutôt du Moyen-Âge, ceux qui pinaillent, qui coupent un peu les cheveux en quatre. Et ils parlent latin. Ils ont un mot dont je ne parle pas ici, qui est le corps effectif. Ça, c'est le corps de Jésus du temps où il était vivant sur la terre, comme disaient mes enfants quand ils étaient jeunes. Celui-là, ce n'est pas notre problème 20 siècles après, maintenant. Et puis, il y a deux mots. En latin, le corpus verum, le corps véritable, et le corpus mysticum, le corps mystique, le corps sacramentel, le corps de mystère. Et la grande découverte de De Lubac, qui est un théologien donc, qui dans les années 20-30 a tout son temps pour lire, relire et fouiller tout ce que l'Église a pu pondre de théologiens depuis 2000 ans, et qui s'applique pas mal à revenir sur les théologiens les plus anciens, alors qu'il a été formé essentiellement dans, non pas Saint Thomas, mais les relectures, des relectures, des relectures, des relectures de Saint Thomas, il découvre cette fameuse inversion avant le XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est cette grande transition de la réforme grégorienne. C'est finalement l'aube très très avant des temps modernes, entre guillemets. Le corps mystique, celui qui est plutôt de l'ordre du mystère, du sacrement, le corps sacramentel, c'est le corps eucharistique. Et le corpus verum, le corps véritable, c'est le corps ecclésial. Avant le XIIe siècle. Et aucun théologien avant le XIIe siècle ne les sépare. Ils sont toujours cités, travaillés en même temps. Alors je vous rappelle qu'une évolution dans l'Église, elle prend au minimum 150 ans, 200 ans. Donc, quand je vous dis avant le XIIe siècle, est-ce que c'est la fin du IXe, est-ce que c'est le début du XIIIe, soyons. Mais on a corpus mysticum, plutôt le corps eucharistique, corpus verum, le corps ecclésial. Vous vous rappelez, ou vous ne vous rappelez pas, le fameux cantique qu'on chante lors des processions eucharistiques, Ave verum corpus, en montrant l'ostrie. C'est un hymne dont les paroles sont de saint Thomas d'Aquin lui-même. Et verum corpus, c'est le corps eucharistique. On a eu cette fameuse interruption entre le corps eucharistique, qui est devenu le corps véritable, et le corps mystique, qui est devenu le corps ecclésial. Et donc il y a eu une inversion liée à plein de querelles sur la nature présente de la présence réelle dans les espèces eucharistiques. Nature de la présence réelle pour laquelle on a cherché des critères objectifs pour que la présence réelle soit vraiment là. Et les critères objectifs qu'on a trouvés, c'est que le ministre soit régulièrement ordonné et que le rite soit fait correctement pour qu'il y ait présence réelle. Deuxième chose, c'est pour ça que je vous ai mis un énorme trait noir là, on se met à ne plus parler en même temps des deux corps. On va parler du corps eucharistique, on va parler éventuellement du corps ecclésial et assez peu, mais entre les deux, c'est Paris. Alors le grand saint Thomas fait tout un traité sur les sacrements. Il sait que l'Eucharistie est participation à la vie du Christ, mais de là à ce qu'il y ait un lien avec le corps ecclésial, c'est pas dit qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vraiment souligné. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du XIIe siècle, en plus de cette inversion, vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, c'est l'époque où l'Église se cléricalise beaucoup, où la séparation entre les clercs et les laïcs devient très importante. Et la pratique eucharistique, du coup, se transforme. On abandonne, pour les laïcs, la communion fréquente. On abandonne, pour les laïcs, la communion sous les deux espèces. Et, petit à petit, la communion devient une pratique individuelle qu'on fait pour son propre salut ou pour le salut des autres, pour les âmes du purgatoire, mais c'est une pratique individuelle. C'est moi, entre guillemets, qui ne serai pas un bon chrétien si je ne vais pas à la messe le dimanche, si je ne communie pas une fois par an, si je ne fais pas mes Pâques. C'est pas l'idée qu'en avaient les anciens, que si je ne vais pas à la messe du dimanche, il manquera quelque chose à l'église. L'église ne sera pas complète. Ce qui est totalement différent du « je suis dans le péché vis-à-vis de mon baptême et de mon salut éternel ». Vous voyez ? Et la pratique eucharistique devient une pratique entre guillemets « élitiste », la participation même au pain eucharistique, rare, et c'est là que, comme le chrétien de base n'a plus accès à une pratique eucharistique fréquente, on va développer la pratique de l'adoration eucharistique, puisqu'on ne peut pas communier, avoir consommé soi-même ce pain eucharistique, qu'au moins on le voit. Vous voyez, ce qui est très important là, c'est d'une part de vous rendre compte que la pratique eucharistique, de l'adoration eucharistique, et donc l'hypertrophie de la présence réelle n'apparaît que dans le deuxième millénaire, que au moment où elle apparaît, ce n'est pas le cas actuellement, elle est liée au fait que les fidèles ordinaires sont privés de pratiques eucharistiques fréquentes. Il n'y a donc pas d'adoration eucharistique dans l'orthodoxie. Et quant à la question fréquemment posée de la foi en la présence réelle au niveau des églises de la Réforme, ce qui est mis en question, ce n'est pas du tout la présence réelle telle qu'elle était comprise dans le premier millénaire. C'est beaucoup plus la façon dont elle a été finalement quelque part instrumentalisée, chosifiée, liée à la précision d'un rite et à la validité d'une ordination, beaucoup plus qu'à la foi de l'assemblée qui la célèbre. Oui. Alors après ça, ça ne veut pas dire que ce soit simple à recoller. Hein, tout ça. Donc, cette inversion corpus verum corpus mysticum, c'est d'avoir découvert ça, c'est la grande, grande découverte d'Henri de Lubac, mais il était, entre guillemets, dans l'air du temps, c'est-à-dire que dans les années 20, 30, 40, les gens fouillaient, les théologiens qui avaient du temps devant eux, fouillaient les écrits du premier millénaire. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas le trouver. Alors, pour vous remettre ça en tête, ce lien entre corps du Christ, corps ecclésial, sous un titre que j'ai extrait de la prière eucharistique numéro 2. Pour qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Ça, c'est dit juste après le récit de l'institution, dans la prière eucharistique numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On le reverra dans la 3, c'est formulé légèrement différemment. La participation au corps et au sang du Christ nous fait corps du Christ. Et là, je vous ai mis quelques pères de l'Église, quelques extraits de sermons. Cyprien, évêque de Carthage, un des grands, grands premiers théoriciens de l'Église. Lorsque le Seigneur appelle son corps le pain qui est fait de beaucoup de grains réunis, il signifie par là l'union de tout le peuple chrétien qu'il portait en lui. Et lorsqu'il appelle son sang le vin qui, de nombreux raisins, ne fait qu'un seul breuvage, il signifie encore que le troupeau que nous sommes provient d'une multitude ramenée à l'unité. Donc, vous voyez qu'on reste dans une interprétation sacramentelle, mystérique, de la réalité du corps et du sang du Christ. Jean Chrysostome. Nous devenons un seul corps, membre de sa chair et os de ses os. C'est ce qu'opère la nourriture qu'il nous donne. Il se mêle à nous pour que nous devenions tous une seule chose, comme un corps joint à la tête. Augustin, que vous allez travailler. Si donc vous êtes vous-même le corps du Christ et ses membres, alors, sur la table eucharistique se trouve votre propre mystère. Vous devez être ce que vous voyez et vous devez recevoir ce que vous êtes. Je vous rappelle que mystère, vous êtes votre propre mystère, vous êtes votre propre sacrement. Se trouve votre propre mystère, votre propre sacrement. Vous devez être ce que vous voyez, vous devez recevoir ce que vous êtes. On a un très beau cantique de communion actuellement. Devenez ce que vous recevez. Vous voyez, qui est inspiré d'Augustin. Alors, je ne sais plus si vous avez ces paroles-là dans le sermon que je vous ai donné ou d'autres, parce que Augustin, il le répétait au moins une fois par an à ses doigts. Donc, il nous a laissé beaucoup, beaucoup de sermons. Voilà. Donc,
excusez-moi.
Oui.
Je ne sais pas si c'est aussi, mais j'ai compris la première partie de cette phrase. Vous devez être ce que vous voyez.
Vous devez être ce que vous voyez. Et vous devez recevoir ce que vous êtes. Oui, c'est
vous voyez.
Ce que vous voyez, c'est votre propre mystère que vous voyez sur la table eucharistique. Et vous devez être votre propre mystère, c'est-à-dire un seul corps. Donc c'est une injonction à être église, on dirait à faire église aujourd'hui. Et être église, c'est accueillir cette participation à Jésus-Christ. Est-ce que je vous éclaire un petit peu?
Oui.
Alors, on reste dans le mystère. C'est toujours à un peu plus approfondir, un peu plus à goûter, à savourer.
Et vous devez recevoir ce que vous êtes.
Vous devez recevoir ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes le corps du Christ et c'est le corps du Christ que vous recevez. Vous voyez, on est une des... l'époque moderne est déjà... dès la fin du Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, on se met à classifier, on prépare des cartes, là, les choses sont carrées, etc. Alors que les anciens étaient dans une théologie, dans une pensée beaucoup plus systémique, où tout était lié à tout. Vous voyez ? qu'on est en train de retrouver, aussi bien sur le plan théologique, mais que sur le plan de la pensée. Toute la pensée écologique, c'est la redécouverte d'une pensée systémique. Vous voyez ? C'est-à-dire que la fourmi n'est pas séparable de l'oiseau qui la mange et de nous-mêmes, et de la terre entière. Et c'est donc un schéma intellectuel très, très différent d'une autre, schéma intellectuel que l'Orient n'a jamais abandonné. Ils ne sont pas passés par nos questions, nos séparations de modernes, les orientaux. Ce qui rend le dialogue avec eux des fois délicat, parce qu'on n'a pas les mêmes catégories mentales. Bon. Alors, maintenant qu'on est là, j'espère que je vous ai bien montré cette puissance de l'Eucharistie pour les pères de l'Église. Donc, Cyprien Augustin, ce sont des latins, des pères latins. Jean-Chrysostome, c'est un père grec. On est encore dans l'Église dite indivise, mais on est dans deux pensées et deux rationalités un petit peu différentes. Je voudrais quand même revenir sur ça. À partir du moment où, intellectuellement, on avait séparé le corps ecclésial de sa dimension mystérique, de sa dimension sacramentelle, eh bien, il est devenu un corps sociologique. On a, dans l'intellectuel, hein, une fois de plus, la foi du peuple chrétien est beaucoup, beaucoup plus proche de la théologie que la pensée des intellectuels et des théologiens. Mais à partir du moment où il était séparé, on a pu créer un droit canon et puis le penser de plus en plus en termes sociologiques, avec des thèmes de hiérarchie, d'organisation sociétale, etc., pour arriver jusqu'à la notion que vous avez chez Bellarmin, qui va dire que l'Église est une société comme la République de Venise ou le Royaume de France. Alors que vous voyez bien que quand on pense le corps ecclésial et le corps eucharistique comme étant totalement liés, la dimension sociologique en tant qu'objet social, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est fondue dans la dimension croyante, donc que j'appellerais théologique, de l'Église. Vous voyez ? Donc, c'est, je dirais, depuis, en théologie catholique, quelqu'un comme le cardinal Newman et d'autres théologiens, qu'on appelle l'école de Göttingen, ça ne vous intéresse pas finalement, en Allemagne, au milieu du 19e siècle, qu'on redécouvre petit à petit cette théologie de l'Église où il faut un peu s'abstraire du sociologique. Parce que à cette époque-là, on a enseigné dans les séminaires que l'Église était une société parfaite et que le pape était le vicaire du Christ. Donc, on assimilait l'Église à une société humaine et uniquement humaine. C'est compliqué dans nos schémas intellectuels occidentaux de se dire que l'Église n'est pas que une société humaine. Donc, là où on va trouver de quoi mieux comprendre, ça va être dans l'action liturgique. Une fois de plus, je vous disais, le peuple chrétien avait bien compris l'importance de cette participation à la messe du dimanche. Et je vous ai mis en haut ce fameux lex orandi, lex credendi. Alors, Ça, c'est ce qu'on appelle un adage, c'est-à-dire une phrase de type proverbe qui, en latin, le latin est une langue très très courte, qui dit énormément de choses en très très peu de mots. Et lex, c'est la loi, mais c'est aussi la parole, c'est aussi la doctrine, c'est orandi, c'est la prière, c'est du verbe orao, prier, et credendi, c'est du verbe credo, croire. Et cet adage, lex orandi, lex credendi, qu'est-ce qu'il nous dit ? La pratique de la prière précède la foi, ce qui est cru. La prière, en particulier dans la liturgie, précède la doctrine. Pour être un peu caricatural, la notion de Trinité, elle est élaborée progressivement par les pères de l'Église et mise au propre, entre guillemets, dans les grands conciles du IVe siècle. Ça fait donc plus de 3 siècles que le peuple chrétien dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la Trinité croyante, rituelle, corporelle, puisque, comme je viens de le faire, ça se fait dans son corps autant que dans ses paroles, et précède la doctrine extrêmement sophistiquée de la Trinité, dite dans les mots de la philosophie grecque. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors,
mais c'est à la source quand même, parce que si on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y avait quand même qui a imposé ce mouvement ?
Qui a imposé ce mouvement ? Il se perd dans la nuit des temps de l'Église.
On ne sait pas. Ouais. Hein ?
Et on l'a déjà baptisé les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On l'a déjà dans la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ancien dans l'Église, même si l'évangile de Matthieu n'est pas le texte le plus ancien, c'est quand même un texte qui vient du 1er siècle. Donc ça se perd dès l'origine de l'Église. D'où c'est venu, on ne le sait pas, mais on sait que c'est extrêmement ancien et que donc ce geste rituel précède la mise en mots. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est une constante anthropologique. Ce qui est compliqué, ce que l'homme ne sait pas toujours verbaliser, il va l'exprimer en rite. Et tout ce qui est rite funéraire est extrêmement fort sur ce plan-là, dans des périodes, les périodes de deuil où les gens ne vont pas bien, où le recul intellectuel est difficile à avoir, le rite permet de dire à la fois sa détresse et son espérance. Vous voyez ? Bon, et donc le mouvement, finalement, c'est la prière, et en particulier la liturgie, donc je vais revenir un petit peu plus sur la définition de la liturgie, précède la doctrine. Ce que je vous disais, le signe de croix précède la doctrine de la Trinité. La prière est intelligence de la foi, elle porte le mystère du salut, et il y a un mouvement qui va de la prière au contenu de la foi. Ici, je reviendrai sur ce texte Sacrosanctum Concilium. Je vous ai mis un petit extrait de ce texte, qui est un texte du Concile, sur la liturgie, et qui va insister beaucoup. Alors, c'est un premier texte du Concile, donc il est voté en 62. Une redécouverte, toute la période moderne, la fin du Moyen-Âge, on se préoccupait de son salut, de ceux qu'on aimait, de ceux pour qui on priait, mais c'était un peu moi qui faisais pour l'autre ou pour moi. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque c'était quand même... les messes, c'était quand même des grands maîtres, mais les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église qui est le sacrement de l'unité. C'est l'Église, là, qui est le sacrement de l'unité. C'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. Nous aurons un cours entier pour nous intéresser au ministère, et en particulier au ministère épiscopal. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église, elles le manifestent, elles l'affectent. Alors, ce sont les actions liturgiques qui appartiennent au corps, avec un C majuscule, de l'Église. Elles le manifestent, c'est-à-dire qu'elles le montrent, que par la liturgie, l'Église montre qui elle est, et elle l'affecte, c'est-à-dire qu'elle le transforme. L'Église, par sa prière liturgique, se laisse transformer par son Seigneur et son Dieu. Alors, c'est quelque chose d'évident, la liturgie ne se limite pas aux textes. La liturgie, ce sont des textes, mais également des gestes, des rites, des façons de se situer dans l'espace, les uns par rapport aux autres, etc. Et on dit beaucoup de choses dans tout cela. La liturgie eucharistique, c'est un ensemble, quand on dit largement normatif, c'est-à-dire qu'il y a des règles et qu'on fait les choses à peu près tous pareils. Il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des échanges. Au sein d'une assemblée qui a plusieurs membres, cette assemblée, elle est convoquée par Dieu. Et ses membres deviennent un seul corps, du fait du processus rituel. C'est le Christ lui-même qui est au milieu d'eux. Dans la prochaine diapo, dans la liturgie, l'Église dit qui elle est. Elle se manifeste et à la fois elle se laisse faire par son Dieu. Je vais, la prochaine diapo, je vous ai mis en quelques mots. Donc, Sacrosanctum Concilium, c'est la constitution sur la liturgie. C'est le paragraphe 2. Mais ce que je vous ai dit, c'est que Sacrosanctum, ou je ne vous ai pas dit, Sacrosanctum Concilium, c'est le premier texte qui a été adopté au Concile. Donc, c'est un texte qui était mûr depuis la grande réforme monastique du milieu du 19e. Le gros travail de Pie X qui a remis en honneur la communion fréquente. La réflexion sur l'Église corps mystique avec l'encyclique de Pie XII, Église corps mystique. Le travail qui avait déjà été fait sur le renouvellement de la liturgie pascale, qu'on appelle le triduum pascal, les offices du jeudi saint, du vendredi saint, et la liturgie de la vigile pascale qui avait disparu au deuxième millénaire, avait été remise en honneur par Pie XII, remise en place. Donc, quand le concile est arrivé et qu'il a fallu écrire un texte sur la liturgie, il y a eu beaucoup de choses écrites sur la liturgie, mais de nouvelles, mais c'était comme un fruit mûr. Par exemple, c'est le concile qui va dire qu'on va dire la liturgie en langue vulgaire, comme on disait, qu'on va arrêter de le faire en latin pour le monde entier, mais c'était un fruit mûr accueilli. Ceci pour vous dire, là, c'est le deuxième paragraphe du texte sur la liturgie. Je vous rappelle que les textes sont toujours, ont comme nom les deux premiers mots latins. Et là, il s'appelle Sacrosanctum Concilium, comme c'est le premier texte du concile, le premier paragraphe est juste une introduction au concile. Et donc, c'est ce deuxième paragraphe qui est l'introduction à la liturgie. Et qu'est-ce qu'il dit ? On va le lire et après, je vous soulignerai l'essentiel. Ainsi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans, pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l'esprit, jusqu'à la taille qui convient à la plénitude du Christ, c'est d'une façon admirable qu'elles fortifient leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ. Et ainsi, elles montrent l'Église à ceux qui sont dehors, comme un signal levé sur les nations, sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité, jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail et un seul pasteur. Alors, une fois de plus, ces textes du Concile, ils sont rédigés en latin. Si vous vous rappelez le fameux lex orandi, lex credendi, le latin est une langue à qui il faut très peu de mots pour dire beaucoup de choses. Les traductions sont toujours effroyablement lourdes, surtout quand on veut les faire mot à mot, qu'on ne veut pas mettre plus de phrases en français qu'il y en avait en latin. Mais on peut voir plein de choses dans ce texte. D'abord, il y a ceux qui sont dedans, ce sont les chrétiens, et ceux qui sont dehors. La liturgie, elle fait du bien aux deux. Il n'y a pas ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer. Parce que vous avez un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu qui s'édifie au début et à la fin jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail, un seul pasteur. Donc vous avez cette dimension eschatologique dont on a parlé quand on a fait le cours pour le royaume, cette dimension du pas encore d'un royaume qui est en train de se construire et qui entoure, vous voyez, ce qu'on appelle la figure de style qu'on appelle un chiasme, jusqu'à la plénitude du Christ, jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail, un seul pasteur, cette notion de marche, de temps intermédiaire dans lequel s'effectue la liturgie. Vous avez la notion d'une liturgie qui, pour ceux qui sont dedans, c'est-à-dire les chrétiens, fortifie, donne des forces pour proclamer le Christ. Vous avez la notion de visibilité de l'Église dans la liturgie. Une liturgie, c'est pas forcément quelque chose qui envahit, mais la porte est normalement toujours ouverte, sauf si vraiment des questions de sécurité sont trop en jeu. Donc, elle montre l'Église comme un signal levé sur les nations. N'oublions pas que les nations... Il peut arriver qu'on ferme la porte de l'Église quand vraiment on est dans des périodes de persécution. D'accord. Mais normalement, la porte reste ouverte. Et l'idée que les enfants de Dieu vont se rassembler. Les enfants de Dieu, on ne les limite pas à ceux qui sont dedans. Donc, vous avez plein de notions en quatre lignes. C'est pour ça que c'est illisible. Il y a trop de choses, trop d'idées dans une seule phrase. D'accord ? Alors, sur la liturgie. La liturgie, on va revenir après dessus, mais il y a deux grandes parties à la liturgie. Il y a d'une part la liturgie qu'on appelle la liturgie des heures, qui va aller jusqu'à 7 offices par jour que disent les moines, qui est codifiée. Et d'autre part, la liturgie de la messe, la liturgie eucharistique, que nous connaissons plus, et qui est également codifiée. C'est les deux grandes parties de la liturgie. Ce qu'on appelle le bréviaire, comme son nom l'indique, c'est une forme brève, de la liturgie des heures, qui est à l'usage des normalement à l'origine des prêtres, elle est ouverte à tout le monde, mais qui était à l'usage des prêtres qui, étant donné leur tâche apostolique, ne peuvent pas être comme les moines avec 7 offices par jour qui leur prennent plusieurs heures. Voilà. Alors on va s'arrêter et faire une petite pause et on va continuer dans la liturgie.